Voilà, l'heure est arrivée, j'espère que vous m'entendez bien. Une très cordiale bienvenue à chacun d'entre vous pour ce troisième cours au Biblos. Et bien sûr, bienvenue à toi, Gilles. Nous sommes heureux de pouvoir continuer cette étude de l'Apocalypse avec toi en étudiant ce soir les chapitres 2 et 3 qui nous parlent de ces sept églises d'Asie mineure. Sept églises qui, au départ, ont chacune reçu le même enseignement biblique de la part de l'apôtre Paul, environ 40-45 ans avant l'écriture du livre de l'Apocalypse. Et pour connaître cet enseignement qu'ils ont reçu, on peut par exemple prendre l'exemple de l'épître aux Éphésiens, une belle épître dont l'Église est justement mentionnée parmi ces sept églises de l'Apocalypse. Même enseignement par la même personne, dans une même culture, et quel résultat terrible à la fin de ce chapitre 3. Souvent, en étudiant ces passages, on entend des prédicateurs présenter ces sept églises comme étant sept étapes de l'histoire de l'Église durant ces derniers 2000 ans. Même si on peut trouver quelques éléments qui pourraient soutenir cette thèse, est-ce vraiment le message que Jean a voulu transmettre, inspiré par l'Esprit Saint? Un message uniquement historique? Franchement, si vous vous rappelez les cours d'histoire à l'école, avez-vous souvent été encouragé par ces cours? Il faut quand même reconnaître que d'écouter les bêtises des hommes, les guerres, les dates à retenir par cœur, etc., c'est pas très passionnant. Et puisque l'humanité a une seule fois retenu les leçons de l'histoire, il semble que non. Alors pourquoi est-ce que l'Esprit Saint aurait choisi une méthode qui ne fonctionne même pas pour nous en temps normal? N'y aurait-il pas autre chose à découvrir en étudiant ces deux chapitres? En relisant ces deux chapitres aujourd'hui, j'ai été frappé de la vitesse avec laquelle les fausses doctrines, les mauvaises habitudes, le refroidissement spirituel et même l'immoralité se sont installés dans ces sept églises. 40 ans, à peine deux générations pour voir disparaître la vie spirituelle. C'est vraiment rapide. Et c'est vraiment une mise en garde pour nous-mêmes et pour nos églises. Autre chose qui m'a frappé en relisant ces deux chapitres, c'est que chacune de ces lettres commence par le Seigneur qui dit « Je connais ». Et chacune se termine par la phrase que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et remarquez bien qu'il est dit aux églises au pluriel, pas à l'église mentionnée. Notre Seigneur Jésus connaît aussi bien nos faux pas, nous met en garde contre les dangers qui nous guettent. Alors, essayons de considérer comment les avertissements de ces deux chapitres peuvent nous aider à avancer dans notre marche chrétienne au lieu de reculer ou de se détourner. Je vous propose de prier pour commencer. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce livre que tu nous as donné à la fin de ta parole, à la fin de la Bible, ce livre qui contient tant d'enseignements importants pour notre propre vie spirituelle. Nous voulons te remercier parce que tu connais nos faiblesses, tu sais de quoi nous sommes faits, tu nous vois exactement comment nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous disons. Chaque jour, tu considères ce que nous sommes, ce que nous vivons dans notre marche chrétienne en rapport avec ce que toi tu as fait pour nous par Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous sommes confus de voir à quel point nous sommes éloignés de cet état de perfection que tu as toi-même tu as toi-même donné à chacun de tes enfants. Et nous voulons te remercier parce que par ton esprit, nous pouvons avancer pour que notre marche corresponde chaque jour un peu plus à ce que tu as fait de nous. Nous voulons te remercier pour cette étude que nous avons ce soir, te prier d'accompagner Gilles pour cette présentation de ta parole et que cela puisse nous fortifier, nous encourager, nous soutenir dans notre marche chrétienne de maintenant, même si ces histoires se sont passées il y a 2000 ans. Nous te bénissons pour ce moment que nous avons réuni par la technique. Nous te prions que tout fonctionne bien à ce niveau-là. Merci pour tout ce que tu nous permets de faire par ce moyen-là. Et merci de bénir ainsi ces moments qui sont devant nous. Amen.
Amen.
Voilà,
Merci beaucoup,
Gilles.
Claude-Henri, pour cette belle introduction.
Alors, nous aussi, on a des oreilles et nous sommes aussi à l'écoute de la parole de Dieu par ton intermédiaire. Merci à toi.
Super. Alors, je me prépare pour le partage d'écran. Voilà, ça devrait jouer maintenant. Bon, bien, vraiment une belle introduction. Merci beaucoup pour cela. Puis, Comme cela a été souligné, nous voilà maintenant arrivés au chapitre 2 et 3 qui traite de ces églises locales d'Asie mineure, donc des églises historiques. Et puis, nous allons couvrir les messages dans l'ensemble, laisser toujours de la place aussi à des questions entourant particulièrement ces deux chapitres-là. Vous savez que ces sept lettres qui sont envoyées aux églises locales d'Asie mineure, elles donnent vraiment un ton personnel au livre de l'Apocalypse. C'est vraiment ce qui distingue ce livre-là d'autres ouvrages qu'on pourrait qualifier d'apocalyptiques, parce que ce livre, l'Apocalypse, a vraiment un ton personnel à cause de ces lettres-là. Ce sont les destinataires du livre, de l'ensemble du livre, quand on pense à tous ces croyants qui étaient répartis parmi ces sept assemblées dans l'ancienne province romaine de l'Asie mineure. Donc, nous rappelons que cela correspond à toute la partie occidentale de la Turquie moderne, une bonne partie, en fin de compte, de cette région. Et puis, donc, ce sont des messages qui sont adressés personnellement à chacune des assemblées. Et bien entendu, les assemblées, ce sont des gens, ce sont des croyants qui ont reçu ces lettres-là, ou du moins, dans certains cas, comme nous le verrons, des gens peut-être qui se disaient croyants, mais ne l'étaient pas, qui se pensaient peut-être même croyants, quelle tragédie, mais qui ne l'étaient pas. Quoi qu'il en soit, ce sont vraiment des lettres adressées à des personnes, à des gens qui fréquentaient apparemment ces assemblées, ces églises locales en Asie mineure. Mais comme cela a été souligné aussi par Claude Henry, ce sont des lettres qui ont été envoyées à non seulement chacune des assemblées, mais l'ensemble des lettres ont été envoyées à toutes les assemblées. Alors, je pense qu'on peut présumer facilement et probablement très correctement aussi que le livre de l'Apocalypse en entier a été envoyé à chacune de ces églises, ou du moins, il a circulé parmi ces sept églises-là. Chaque lettre va traiter de la situation propre à chaque église locale. Elles vont décrire les conditions dans lesquelles ces églises-là se retrouvaient et aussi les défis qu'elles devaient rencontrer. Dans vos notes de cours, nous sommes à la page 7 du canevas de notes qui vous a été remis et tout au haut de la page, vous avez le titre de la section qui nous préoccupe aujourd'hui, donc les sept églises locales d'Asie mineure. Et il y a deux petites lignes que j'aimerais lire avec vous juste avant le tableau là, qui résume l'ensemble des messages. Et on lit ceci, « Les lettres sont adressées à des églises locales historiques et leur message s'applique à toutes les époques de l'histoire de l'Église. » Il faut vraiment bien comprendre cette phrase-là. Quand on parle d'églises locales historiques, c'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est des églises qui ont véritablement existé et donc qui étaient situées dans chacune des localités mentionnées ici. Mais remarquez la deuxième partie de la phrase. Nous insistons sur le fait que c'est le message qui s'applique à toutes les époques de l'histoire de l'Église. Comme cela avait été démontré par le frère Roger Libby lors de sa présentation, il est très fréquent, très populaire d'attribuer pour chaque église locale une portion de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, en commençant avec Éphèse qui représentait l'Église à l'époque apostolique, jusqu'à aujourd'hui qui correspondrait à l'Église de Laodicée si nous suivons l'ordre de ces églises. Ce lien est possible, mais par contre, il est impossible de l'établir avec une certitude absolue, surtout quand on tient compte que différents commentateurs arrivent à une division de l'histoire ou des 2000 dernières années de façon assez différente. Moi, ça m'avait un peu surpris. J'étais un jeune croyant, puis j'avais grandi avec cette vision aussi dispensationaliste de la répartition des églises parmi l'histoire de l'Église. Et puis, en général, ça suivait exactement ce que Roger Libby avait présenté, mais j'avais été surpris après avoir acheté une brochure. Je pense que le titre, c'était « Le cours des temps » ou quelque chose comme ça, puis par un dénommé Ernest Big. Je pense que vous connaissez pour plusieurs d'entre vous. Et puis, sa présentation, sa division historique n'était pas la même que celle qui avait été présentée par Roger ou par l'ensemble de ceux qui sont de théologie dispensationaliste, c'est-à-dire qui croit que Dieu a séparé le temps dans sa révélation aux hommes et dans sa façon de gérer ses relations avec les hommes. Alors, ce serait tout un débat d'entrer là-dedans, mais plutôt que de commenter sur cette vision des choses qui, je le répète, peut être possible, mais impossible à établir de façon absolue, je préfère m'attarder au message, au texte lui-même et comprendre dans ce message-là des messages adressés individuellement à chaque assemblée, mais parce que, comme Claude Henri l'a souligné, chaque Église devait porter attention au message en pluriel, au pluriel, cela indique clairement que les messages devaient être communiqués à chaque Église. Donc, chaque Église recevait un message personnalisé, mais sept messages aussi auxquels ils devaient porter attention. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Je veux dire, même si ces messages s'adressaient historiquement à cette Église locale d'Asie mineure, le contenu de ces messages s'applique à nous aujourd'hui parce qu'ils s'appliquent à chaque époque de l'histoire de l'Église. Voilà pourquoi je voulais insister sur la définition ou le sens de cette phrase-là. On va plutôt mettre l'accent sur les messages eux-mêmes et voir de quelle façon ils parlaient à l'époque et ils nous parlent encore aujourd'hui. Puis après tout, c'est très simple, parce que le message demeure exactement le même. Une fois qu'on a compris ce dont le Seigneur parlait, par exemple, à Pergame, bien, on sait ce qu'il veut nous dire à travers ce message-là, à nous aussi aujourd'hui. Peut-être que des situations qui étaient caractéristiques de ces assemblées-là ne correspondent pas à nos vies personnelles aujourd'hui, mais il y a certainement quelque chose dans ces lettres-là qui va nous rejoindre. Il y a quelque chose qui va nous parler. Il y a certainement des choses aussi dans nos vies à corriger. Par exemple, peut-être qu'on n'est pas dans une période de notre vie chrétienne où nous avons abandonné le premier amour et nous sommes dans une période de refroidissement spirituel. Peut-être qu'on est loin un peu du Seigneur. Mais ce message-là nous parle tout autant parce qu'il nous rappelle l'importance de nous tenir près du Seigneur et d'entretenir cet amour, non seulement pour lui, mais aussi pour les frères et sœurs. Alors, c'est évident que ces messages-là, quand on les prend comme étant des messages vivants qui ont quelque chose à dire à des croyants de l'époque et de chaque époque et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est la parole de Dieu qui parle et qui a des choses à nous dire. Alors, dans le tableau qui suit, dans vos notes de cours, je vais voir si je peux activer aussi le PowerPoint, donc vous allez pouvoir avoir un visuel sur certains éléments de l'exposition d'aujourd'hui via le PowerPoint. Je vous rappelle que vous pouvez, en déplaçant la barre verticale qui sépare la fenêtre du PowerPoint de celle du conférencier, vous pouvez équilibrer la présentation des deux. Alors, vous avez ça dans vos notes de cours aussi pour une référence ultérieure. C'est un tableau comparatif très simple là, des sept églises locales d'Asie mineure. Donc, on mentionne quelle est l'Église, le passage en question, l'auteur, ce qui est positif dans le message du Seigneur, ce qui est négatif. Parfois, on va plutôt dire ce que le Seigneur approuve, ce que le Seigneur désapprouve, quelles sont les notes d'approbation, quelles sont les notes de blâme, etc. Et on a des avertissements et aussi des promesses qui sont adressées aux croyants de ces églises-là. Donc, vous pouvez prendre le temps plus tard de regarder ce tableau en détail, mais en fait, il sera toujours une référence pour vous ultérieurement quand vous voudrez vous référer à ce tableau-là ou avoir peut-être des informations rapides. Maintenant, il y a des éléments communs entre toutes les lettres ou, avec certaines exceptions, presque toutes les lettres. Et il y en a quatre éléments communs qui ont été soulignés, c'est dans vos notes de cours aussi. Bien, premièrement, on voit que l'auteur est clairement le Seigneur Jésus glorifié. C'est toujours lui qui présente ses messages à ces sept assemblées-là. C'est présenté sous un aspect ou un autre dans sa révélation de sa gloire, mais c'est notre Seigneur Jésus glorifié qui parle à chaque fois. On a aussi cinq églises qui reçoivent une approbation du Seigneur. Cinq églises vont recevoir un blâme. Donc, dans les deux cas, il y a deux exceptions. Deux églises qui ne reçoivent pas d'approbation et deux églises qui ne reçoivent pas non plus de blâme. Et quatrième élément commun, c'est que les sept églises reçoivent des avertissements et aussi des promesses. Maintenant, quand on étudie les lettres adressées aux sept églises locales d'Asie mineure, on doit porter notre attention sur deux éléments en particulier, donc chercher à les découvrir. Premièrement, les caractéristiques propres à chacune de ces villes-là au premier siècle après Jésus-Christ. Bien entendu qu'un bon dictionnaire biblique va beaucoup nous aider. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans ses messages, fait un peu comme ce qu'il fait dans les évangiles avec les paraboles. Vous savez que les paraboles sont des histoires courtes tirées de la vie quotidienne des gens à l'époque. Il y avait toujours une espèce de lien commun entre l'enseignement du Seigneur dans une parabole donnée et le contexte historique, culturel, social, politique, économique, etc., de ce que les gens vivaient à l'époque. Donc, les gens, en écoutant les paraboles, pouvaient faire un certain lien avec des éléments communs de leur société à l'époque. Bien, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce que c'était que ces villes, en fait, quelle était l'économie, quels étaient les éléments culturels, sociaux, politiques de ces villes-là. Parce que le Seigneur, quand il leur parle, il utilise des éléments qui sont propres à chacune de ces villes-là dans son message pour que le message soit davantage percutant. Maintenant, parce qu'aucun de nous, je présume présentement, là, aucun de nous ne se trouve en Asie mineure ou dans l'ouest de la Turquie, quoique ça puisse être possible, mais on n'est pas de ces villes-là, on n'est pas de cette culture-là, ça fait 2000 ans maintenant, c'est loin de nous, alors que peut-être il va y avoir certains éléments qui vont nous échapper si on n'est pas au courant de ces caractéristiques propres à chacune de ces sept villes-là. Alors, je le répète, un bon dictionnaire biblique comme celui de René Pache des éditions Emmaüs va nous renseigner sur ce qui se passait dans ces villes-là, quelles étaient les caractéristiques principales, et ça devrait nous éclairer en bonne partie sur le sens du message du Seigneur. Et vous l'avez probablement deviné, c'est ce que nous allons faire dans cette partie de cours. Nous allons porter notre attention sur ces caractéristiques-là. Je vais en mentionner quelques-unes au passage et voir quel est le lien avec l'enseignement du Seigneur et qu'est-ce que cela peut nous dire à nous encore aujourd'hui. Et bien entendu, on veut chercher aussi à découvrir le contenu en fait, l'enseignement contenu dans chaque message pour comprendre les bonnes applications. Non seulement pour eux à l'époque, mais encore pour nous aujourd'hui. Maintenant, on sait que le Seigneur va conclure chacun de ses messages par un appel. Cet appel nous résonne du ciel, et puis vous pouvez le voir dans le PowerPoint, que celui qui a des oreilles écoute, et je suis reconnaissant que Claude Henry ait souligné cette phrase-là qui revient à chaque reprise à la fin de chaque message. Et cette phrase est un idiome qui est utilisé souvent dans les Écritures, surtout dans les Évangiles, par notre Seigneur Jésus à nouveau. Et c'est un appel à la compréhension et au discernement spirituel. Donc, cette phrase, cet appel-là, que celui qui a des oreilles écoute, s'adresse à tous ceux qui ont de la compréhension et du discernement spirituel parce qu'ils sont, un, sauvés, et deux, parce qu'ils veulent marcher avec le Seigneur. Bien entendu que ce concept d'oreille dans les Écritures est lié de très, très près à l'obéissance et, je dirais, à la carrière d'un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute l'enseignement d'un maître, assis à ses pieds pour recevoir son enseignement et conformer sa vie par la suite à cet enseignement-là. Donc, c'est pratiquement un appel au discipulat, ce qu'on entend là, que celui qui a des oreilles écoute, c'est comme « lève-toi et obéis en tant que disciple ». Et c'est l'appel que le Seigneur glorifié lance à des églises historiques, mais à chaque église, à toutes les époques, comme à nous, bien entendu, aujourd'hui. Alors, en tenant compte de cela, on passe à la page suivante dans vos notes de cours et nous sommes à la page 8 qui traite de l'église d'Éphèse et c'est la première église dont nous allons nous préoccuper maintenant. Je vous propose une lecture de Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7 et je vais lire dans la version seconde, nouvelle édition de Genève. Vous pouvez me suivre aisément dans la Darby, bien sûr. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience et tu as supporté des afflictions pour mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Je m'excuse, je viens de réaliser que je suis en train de lire dans la Darby. C'est bon, on va continuer comme ça. J'avais disposé, inversé mes fenêtres à l'envers. Je continue. Version Darby, verset 4. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » La ville d'Éphèse était parfois appelée la première et la plus grande métropole d'Asie. C'était vraiment une ville importante et c'est pourquoi on va passer un petit peu plus de temps dans cette lettre-là adressée aux Éphésiens. Quand on tient compte du récit des Actes des apôtres, il est possible, voire même probable, que Éphèse ait accueilli la toute première église locale en Asie mineure. On ne peut pas en être certain absolument, mais c'est très probable. Elle a été fondée par l'apôtre Paul dans Actes 19, les versets 1 à 41. Puis je vous invite aussi à lire Actes 20, les versets 17 à 35, où on voit le merveilleux discours de Paul adressé aux anciens de cette église-là. On dit qu'Éphèse, c'était le siège du gouvernement romain en Asie mineure. C'était là que le proconsul résidait. Le proconsul, qui est appelé aussi procurateur dans d'autres textes, était en réalité le gouverneur d'une province romaine. Et c'était le siège de sa résidence qui était à Éphèse. Et d'après les traditions des pères de l'Église, c'est aussi là que l'apôtre Jean aurait vécu les dernières années de sa vie après avoir succédé à Timothée, qui avait été probablement le pasteur ou l'enseignant, le prédicateur enseignant de cette église d'Éphèse. On le voit d'ailleurs dans les épîtres pastorales. Il a une charge très importante d'enseignement à l'église d'Éphèse. Vous réalisez cette église, à quel point elle a été bénie et visitée par Dieu à travers ses grands prédicateurs. L'apôtre Paul qui a été là pendant plus de 3 ans, ensuite Timothée qui a exercé un très long ministère et finalement l'apôtre Jean, d'après les pères de l'église, qui aurait aussi été un enseignant là-bas. Franchement, cette église-là avait tout reçu au niveau là, d'une qualité d'enseignant extraordinaire. Cette ville-là, maintenant, était très réputée, autant du point de vue commercial que religieux. Elle était près des côtes et par le fait même, donc elle était très accessible pour le commerce maritime et elle était aussi située près d'une très grande route romaine qui s'étendait depuis Babylone jusqu'à Rome. Et à l'intérieur de la ville, on trouvait l'une des sept merveilles du monde antique, c'est-à-dire le fameux temple de la Diane des Éphésiens, c'est le temple d'Artémis. Ce que vous voyez là, c'est une reconstitution du temple d'après les ruines qu'on trouve même actuellement sur le site. On peut reconstituer à quoi pouvait ressembler plutôt ce temple-là. Bon, Artémis, c'est la manière dont on la nommait chez les Grecs, mais cette déesse portait le nom de Diane chez les Romains, mais il s'agit exactement de la même déesse, donc qui était adorée dans le monde antique. Mais c'était aussi une ville très occulte, Éphèse, hein? Il y avait des arts là, qui étaient pratiqués, l'art de la magie, de l'exorcisme dans cette ville-là. On le voit très bien dans Actes 19. Et rappelez-vous le témoignage de ces gens qui se sont convertis, qui ont brûlé leur livre de magie par la suite. Et ça devient très intéressant, même quand on considère tout ce que le Nouveau Testament nous révèle à propos de la ville d'Éphèse et du développement de l'Église d'Éphèse depuis sa fondation jusqu'à la fin du premier siècle après Jésus-Christ. On peut lire dans l'ordre, il suffit de le faire, bien sûr pas aujourd'hui, mais comme vous pouvez le noter sur le PowerPoint, Actes 19 et 20. Donc, si nous lisons dans cet ordre-là, Actes 19 et 20, ensuite l'épître de Paul aux Éphésiens, puis les deux épîtres de Paul à Timothée, et finalement le message du Seigneur glorifié dans Apocalypse 2, 1 à 7. Eh bien là, on a tout un panorama du développement de cette Église-là, tant au niveau de la doctrine que de la conduite aussi. Et dès les premières années de cette Église locale, on se rappelle que l'apôtre Paul avait averti les anciens de cette Église-là, entre autres dans Acte 20, là, qu'il y aurait éventuellement de faux docteurs qui frapperaient l'Église. Tôt ou tard, ces faux docteurs allaient arriver. Et les épîtres à Timothée démontrent que cela s'était malheureusement concrétisé plusieurs années plus tard. Il y a plusieurs textes qui évoquent cela dans les épîtres pastorales, c'est-à-dire les épîtres de Paul à Timothée. La lettre que le Seigneur va envoyer aux Éphésiens démontre que l'Église était encore menacée par les faux enseignements environ 40 ans plus tard, donc à la fin du premier siècle, particulièrement par des personnes qui étaient connues sous le nom de Nicolaïtes. Il y a beaucoup de commentateurs qui cherchent un sens à ce nom-là avec l'étymologie du nom, donc Nikao qui veut dire vaincre et Laos veut dire peuple. Donc, est-ce que c'était des gens qui se considéraient comme des vainqueurs parmi le peuple? Je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller dans cette direction-là parce que la réalité, c'est qu'on ignore totalement qui sont les Nicolaïtes, même si c'est vrai que les pères de l'Église, je pense que c'est Irénée de Lyon qui avait suggéré que c'était Nicolas, un des sept premiers diacres qu'on trouve dans Acte 6. Mais c'est impossible de le démontrer de façon très, très claire et nette. On ne sait pas qui ils étaient. Par contre, on sait clairement et parfaitement que leurs œuvres et leurs enseignements étaient mauvais. Et ça, ce n'est pas surprenant. Quand on a une mauvaise doctrine, un mauvais enseignement, ça va déboucher sur une très mauvaise conduite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il y avait des gens qui enseignaient des mauvaises choses et ça amenait une très mauvaise conduite parmi l'Église d'Éphèse. Et c'est pas peu dire que le Seigneur lui-même déclare qu'il détestait ces œuvres-là et détestait ce que ces gens-là enseignaient. Mais en plus des problèmes de doctrine, les Éphésiens avaient aussi un autre problème, cette fois-ci plus de nature pratique. Ils avaient oublié leur premier amour. J'ai mis un point d'interrogation sur le PowerPoint parce que je me pose la question, de quel premier amour parle-t-il? Est-ce le premier amour envers Christ, envers Dieu, ou le premier amour envers les frères, les sœurs? On ne peut pas trancher sur cette question, mais je dirais que c'est probablement les deux. Parce que de toute façon, ce n'est pas possible de prétendre aimer Dieu si on n'aime pas les frères et sœurs, et vice-versa, c'est vrai aussi. Donc, si on dit qu'on aime les frères et sœurs, c'est évident qu'on va aimer Dieu. Puis si on dit qu'on aime Dieu, on doit aussi aimer les frères et sœurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est une belle réflexion, et puis ça nous parle, ça me fait penser à ce que Paul dit aux Corinthiens, que Dieu a mis ou versé dans le cœur du croyant son amour, mais c'est encore la même chose, l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs également. Mais ce que nous dit ce problème, c'est que les Éphésiens étaient tombés probablement dans ce qu'on pourrait appeler l'orthodoxie morte. C'est-à-dire qu'au niveau doctrinal, ils étaient conformes, ils haïssaient les fausses doctrines, ils résistaient aux fausses doctrines, ils étaient assez en mesure de se battre, en fait, spirituellement, et même d'être trouvés vainqueurs. Donc, ils étaient orthodoxes d'un point de vue doctrinal. Orthodoxe, ça veut dire conforme, droit, selon la parole. Donc, ils étaient selon la parole d'un point de vue doctrinal, mais d'un point de vue pratique, alors là, il manquait d'amour. Vous savez, dans Éphésiens 4, verset 15, et ça, c'est Paul qui leur avait dit ça 40 ans avant que le Seigneur leur parle ainsi, il leur avait dit qu'il fallait professer la vérité dans l'amour. C'est la vérité et l'amour qui est important, pas un plus que l'autre, parce que les deux doivent trouver un parfait équilibre dans la vie du croyant. Et on voit que ceux qui insistent uniquement sur la vérité, par exemple, mais qui n'ont pas d'amour, risquent de tomber dans le légalisme. Ceux qui insistent uniquement sur l'amour et sont négligents par rapport à la doctrine, ils risquent de tomber dans le laxisme, dans le libéralisme même. C'est important d'être équilibré entre la vérité et l'amour. Et c'est clairement ce qui semble avoir manqué à la fin du premier siècle dans cette Église à Éphèse. On doit toujours avoir une vie équilibrée entre la vérité et l'amour. Vous lirez l'apôtre Jean à ce sujet, autant dans son évangile que dans ses épîtres, il présente ce qu'est l'équilibre entre la vérité et l'amour. Alors, les Éphésiens devaient se repentir de cet état de choses et revenir au point de départ, sinon un jugement les attendait. Leur lampe ou leur chandelier serait enlevé, ôté de sa place. Vous savez que la lampe ou le chandelier n'est pas le salut, mais plutôt le témoignage de cette église locale, le voir l'église locale elle-même, d'un point de vue de collectif, l'église locale elle-même. Nous savons que l'église d'Éphèse est demeurée en place à Éphèse au moins jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, puisqu'il y a eu un important concile de l'histoire de l'église en 431 à Éphèse. Par contre, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de témoignage pour cette église ou cette église dans cette ville pendant des siècles. Et quelqu'un a dit ceci en parlant des ruines d'Éphèse qui subsistent aujourd'hui en Turquie. Les ruines d'Éphèse témoignent en silence du sérieux de l'avertissement du Seigneur. Autrement dit, c'est comme si l'auteur concluait que le Seigneur avait ôté le chandelier de sa place, c'est-à-dire qu'il avait mis fin au témoignage de l'église locale d'Éphèse parce qu'elle n'avait pas su équilibrer son témoignage entre la vérité et l'amour. C'est un message qui nous parle directement au cœur encore aujourd'hui. Je ne vois pas comment j'aurais besoin de faire une application à ce qu'on vient d'entendre. Il me semble que c'est parfaitement clair. Et vous voyez que c'est ce que le Seigneur a dit à Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse à l'époque, puis il nous dit exactement la même chose encore aujourd'hui. Et heureusement, il y a des promesses qui sont adressées aux vainqueurs. Et la promesse particulière pour Éphèse de pouvoir avoir accès à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu, donc de manger de l'arbre de vie. Et cette expression-là, manger de l'arbre de vie, est probablement simplement un synonyme d'avoir la vie éternelle. C'est comme une confirmation que ceux qui persévèrent, qui restent debout, sont sauvés et ils vont avoir part à cette vie éternelle. Alors, c'est pas une promesse adressée à quelques personnes particulièrement, c'est plutôt une promesse adressée à l'ensemble des croyants fidèles qui portent attention au message du Seigneur. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que probablement que les promesses adressées par le Seigneur glorifié à chacune des églises locales sont des promesses en réalité adressées aux croyants, pour leur confirmer, leur donner de l'assurance par rapport à leur salut, à la vie éternelle et à la communion qu'ils ont le privilège d'avoir avec le Seigneur. Donc, c'est pas forcément le tribunal de Christ qui est envisagé dans les récompenses adressées aux croyants dans les messages des églises d'Asie mineure. C'est bien plutôt un message d'assurance, de confirmation du salut. Et la plupart des commentateurs conservateurs, je pense qu'ils vont aussi dans ce sens-là. Alors, voilà ce qu'on peut dire concernant l'Église d'Asie mineure. Et entre-temps, on est à Smyrne pour le message du Seigneur à Smyrne. Nous allons lire les versets 8 à 11 qui touchent au message adressé par le Seigneur glorifié aux croyants de l'Église de Smyrne. Et je vais continuer la lecture dans la Darby, puisque c'est là que j'ai commencé. « Et à l'ange de l'Assemblée qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. » Quel message, c'est extraordinaire. La ville de Smyrne existait déjà depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, au moment où Les croyants de l'Église de cette ville-là ont reçu la lettre du Seigneur glorifié. On parle d'environ 600 ans avant Jésus-Christ. La ville qui existait déjà à ce moment-là, elle avait été détruite par des conquérants qui venaient de la Lydie. Et au 3e siècle avant Jésus-Christ, cette ville-là a été restaurée et elle est même devenue ce qu'on disait de elle à l'époque, les délices de l'Asie. Donc, ce n'est pas surprenant de voir le Seigneur glorifié se présenter à cette Église comme étant celui qui a été mort et qui a repris vie, parce que c'est exactement ce qui est arrivé à la ville. Elle a été détruite, mais elle a repris vie par la suite. Vous voyez de quelle façon le Seigneur créait des liens entre son message et le vécu même de ces gens-là dans leur histoire et dans leur culture. Tout cela avait pour but de créer un plus gros impact dans leur esprit et dans leur cœur. Smyrne était bien située, autant au niveau maritime que terrestre. C'était une ville tellement importante qu'elle était probablement deuxième seulement derrière Éphèse. Et l'église de Smyrne et celle de Philadelphie se ressemblent beaucoup. Donc, j'ai mis ça dans vos notes de cours parce que je pense que ça va vous donner matière à réflexion par la suite où vous pourrez aller étudier davantage ce qui est dit au sujet de ces églises-là. Mais plutôt que de juste porter l'attention sur Smyrne, je vais le faire d'une façon comparative avec l'église de Philadelphie, mais je vais m'occuper quand même de Philadelphie tout à l'heure. Dans vos notes de cours, nous lisons ceci. Les deux églises locales étaient matériellement petites et faibles. On voit les textes entre parenthèses. Smyrne était pauvre matériellement, mais riche spirituellement. Quel contraste avec Laodicée qui se vante d'être riche, mais qui est pauvre. Deuxième point de comparaison, les deux églises étaient oppressées ou opprimées par des faux juifs. Et ça se réfère probablement à des véritables juifs qui l'étaient physiquement, mais qui ne l'étaient pas spirituellement, donc de faux juifs d'un point de vue spirituel. Parce que le véritable juif d'un point de vue spirituel est celui qui reconnaît Jésus comme étant le Messie. Et le troisième point de comparaison entre Smyrne et Philadelphie, c'est que les deux églises étaient menacées de persécution, comme on le voit dans 2:10 et 3:10. Et pour Smyrne, c'est une persécution qui viendrait du diable et qui durerait 10 jours. Et à propos de ce 10 jours-là, pardon, j'ai juste été un petit peu trop vite, par rapport à ce 10 jours-là, comment le comprendre? Il y a plusieurs interprétations qui sont présentées, offertes par les différents commentateurs. Il y en a 4 principalement. Il y a beaucoup de commentateurs qui pensent que 10 jours est simplement une façon imagée de parler d'une courte période de temps. Et souvent, on se réfère, par exemple, à Genèse 24-55, où on voit une demande pour qu'une personne prolonge son séjour d'une dizaine de jours seulement, donc une courte période de temps. Ou alors, on s'appuie sur Acte 25-6, où Festus, pardon, n'a passé que 8 à 10 jours parmi quelques personnes. Et donc, en se basant sur des textes vraiment, mais hors contexte dans un sens, on essaie de voir un sens figuré d'une courte période de temps. C'est très faible comme argument. Et puis franchement, il faut simplement isoler des textes puis faire des petits liens communs qui ne respectent pas du tout les contextes originaux. Donc pour moi, cette interprétation-là ne tient pas la route. La deuxième interprétation populaire, très populaire, c'est celle d'une représentation de 10 périodes de persécution romaine. Alors on dit qu'il y a eu 10 grandes période de persécution romaine. Si je ne fais pas erreur, c'est ainsi que Roger Libby, lui, avait présenté sa compréhension des 10 jours. Ça aussi, c'est possible, mais encore, c'est très difficile de le démontrer de façon absolue ou certaine, puisqu'on ne s'entend pas parmi tous les historiens sur ces soi-disant vagues de persécution romaine. Est-ce qu'il y en a eu véritablement 10? C'est pas clair, c'est pas certain. Déjà même à l'époque où Smyrne recevait ce message-là, il y avait déjà une de ces vagues de persécution qui était passée, alors que le Seigneur dit au futur, vous aurez une tribulation de 10 jours. Et quand on parle des persécutions romaines, celle de Néron est généralement incluse comme étant la première. Elle est déjà passée, ça fait presque 40 ans. Alors, c'est un petit peu difficile, nébuleux, je dirais, d'établir ce point-là, mais je n'ai pas tellement d'arguments non plus, alors je ne suis pas un spécialiste du tout de cette compréhension-là. La troisième interprétation est celle d'une période d'épreuve. Simplement que 10 jours veut dire une période d'épreuve. Cette compréhension-là, elle est beaucoup plus plausible, quant à moi. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on voit plusieurs périodes d'épreuves qui ont une durée de 10 jours, 10 années ou peu importe la durée exacte, mais avec le nombre 10. Je pense par exemple à Genèse 31, verset 41, où on voit que Jacob dit à Laban, tu as changé 10 fois mon salaire, comme si c'était une façon de dire, probablement que ce n'était pas 10 littéral, mais tu m'as vraiment éprouvé en changeant constamment mon salaire de cette façon-là. Il y a les 10 plaies en Égypte aussi. Il y a beaucoup d'autres éléments dans les Écritures qui pourraient nous amener à cette compréhension-là. L'épreuve de Daniel à manger des légumes pendant 10 jours, par exemple. Donc, là, je dirais que, OK, on arrive dans des contextes semblables, des temps d'épreuve, ça dure 10 jours, donc c'est possible que ce soit représentatif d'une période d'épreuve. Mais la quatrième façon d'interpréter le 10 jours est simplement de comprendre 10 jours littéralement, et c'est probablement, pour moi, la façon la plus simple, la plus claire, sans qu'on ait plus d'indications que cela, mais je n'écarterai pas quand même l'idée d'une période d'épreuve qui est relativement courte, mais qui sera certainement intense aussi. Et quoi qu'il en soit, il y a des promesses adressées aux vainqueurs, dont celle-ci en particulier avec la seconde mort. Bon, je me suis permis d'utiliser un petit peu de feu dans tout ça, parce que la seconde mort, c'est l'étang de feu. C'est l'enfer qu'on appelle communément dans notre langage d'aujourd'hui. Donc, le Seigneur est en train d'assurer ceux qui lui appartiennent vraiment, qui le démontrent en portant attention à son message, que pour eux, ils ont la vie éternelle, ils n'iront pas en enfer, ils ne passeront pas par cette seconde mort, cette privation de Dieu pour l'éternité. Alors, vous voyez que c'est constamment des messages d'assurance, de confirmation du salut que nous avons dans le message du Seigneur. Et moi, ça me fait du bien parce que je me dis, c'est là, en gros, l'encouragement des lettres adressées par le Seigneur glorifié à ces églises-là, c'est qu'il m'exhorte, en fin de compte, en me reprenant, en m'encourageant, il m'exhorte à être fidèle et en me rappelant que je suis sauvé, que je lui appartiens et que j'ai la vie éternelle et que je ne passerai pas en jugement et que je ne passerai pas l'éternité loin de lui. C'est ça l'essence des messages. Et puis, voilà pourquoi je suis encouragé à aller de l'avant et puis que je suis sensible aux encouragements présentés dans ces textes-là. On prend une petite pause maintenant et puis on sera rendu à la lettre à Pergame.
Merci bien, Gilles, pour cet exposé de ces premiers versets du chapitre 2. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions au moyen de l'onglet Q et R qui se trouve au milieu et en bas de votre écran. Et nous avons des remarques, je ne sais pas s'il y a vraiment une question. À la fin du chapitre 1, il est mentionné, écrit donc les choses qui sont, et puis d'où les chapitres 2 et 3, et puis au début du chapitre 4, après ces choses, comment ne pas comprendre qu'on parle de faits historiques?
Ben, en fait, le texte même et cette structure, et ça, Roger l'avait très bien souligné, ça démontre que les choses qui sont étaient les choses qui étaient contemporaines à Jean, qu'il vivait de son époque. Et donc, cette déclaration au chapitre 4, après ces choses, nous ramène à la structure du chapitre 1, verset 19, où Jean devait présenter le contenu de son livre en 3 sections majeures. Les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses qui seront par la suite. Et c'est exactement cette structure que Jean va donner par la suite. Alors, bien entendu que les choses qui sont, ce sont des choses historiques et ce sont les 7 églises locales d'Asie mineure à l'époque même de Jean.
Merci Gilles pour cette réponse. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Donc il est 21h. Je vous propose de prendre une petite pause et puis on se retrouve à 21h07. À bientôt.